Europe Soir Weekend, Wendy Bouchard.
Vous écoutez Europe 1, 18h19 si vous nous rejoignez. Et depuis 10 jours, depuis la mort de Samuel Paty, le gouvernement ne laisse aucun espace au contre-discours sur la République. Un plan de riposte contre l'islamisme, une stratégie du harcèlement, disent les spécialistes. Bonsoir Jean Glavany.
Bonsoir.
Pour l'ancien ministre que vous êtes, c'est une offensive à la hauteur que celle du gouvernement actuellement?
Écoutez, il est trop tôt pour le dire. Pour l'instant, on est au niveau des discours, des paroles, des intentions. Je jugerai, je pense que les citoyens français jugeront aux actes, car c'est seuls les actes comptent, les décisions réellement mises en œuvre. Ce qui est vrai, c'est que cet épouvantable drame qu'a représenté la mort de Samuel Paty a sans doute éveillé bien des consciences, à la fois dans la population, mais aussi chez les politiques et chez nos décideurs. Et donc on peut espérer que les actes suivront ces discours de l'instant, mais pour l'instant je suis très prudent, j'attends de juger aux actes.
Vous revendiquez en tout cas avec d'autres la nécessité de faire bloc, de serrer les rangs aujourd'hui, Jean Glavany, sur ce sujet. Alain Juppé s'exprime dans la même veine que vous aujourd'hui d'ailleurs.
Oui, ça ne m'étonne pas parce que Alain Juppé est un républicain et que aujourd'hui, je pense que tous ceux qui ont des responsabilités, qui ont eu des responsabilités et ceux qui ont le sens de la République doivent comprendre que la République est menacée dans son essence même et qu'il y a une guerre qui nous est déclarée et que dans ces cas-là, il n'y a pas d'autre solution que de faire bloc. Mais faire bloc, c'est la première partie de la solution. La deuxième partie, c'est de faire bloc pour agir et pour agir efficacement, parce que Clémenceau, pendant la Première Guerre mondiale, qui en appelait à l'unité nationale, en même temps, il était présent presque chaque semaine sur le front des troupes pour agir à leur tête. Donc il y a quelque chose qui relève du discours et quelque chose qui relève des actes. Voilà, c'est ce qui à ce stade est attendu.
Dans les discours et dans les actes à venir, la fermeture provisoire par exemple de la mosquée de Pantin, la surveillance des imams, on reprend la main sur la formation des imams encadrée par le CFCM, la lutte plus active contre le cyber-islamisme. Je vous cite quelques annonces, quelques outils, vous qui plaidez dans cette tribune publiée dans le JDD aujourd'hui, pour de nouveaux outils, justement. Auxquels pensez-vous très clairement, Jean Glavany ?
Je pense à tous les outils possibles et imaginables. Je pense que la République et que l'État républicain doit se doter notamment d'outils d'observation, de renseignement.
Oui.
Je ne suis pas du tout convaincu que le renseignement sur l'islamisme soit encore au niveau suffisant, compte tenu du degré de menace. J'ai de vrais doutes et je pense que il faut monter en puissance sur ce sujet. Je pense qu'il faut
surveille actuellement les services de renseignement, une centaine de mosquées qui poseraient problème.
Ouais, mais je voudrais être sûr que la volonté politique se traduit par des moyens.
Oui.
Et des moyens considérable. J'ai des informations qui me laissent entendre que c'est loin d'être le cas toujours. Bon, mais il y a le renseignement. Et puis ensuite, il y a des moyens juridiques. Probablement, il faudra renforcer les moyens juridiques, parce qu'au fond, des mosquées, on en a déjà fermé dans le passé. On a déjà renvoyé des imams expulsés hors de France, des imams intégristes et fanatiques. Ce qui prouve que c'est possible avec les lois aujourd'hui, mais probablement il faudra renforcer le corpus juridique pour faciliter ce genre de choses.
Vous plaidez
pour... Et puis il y a d'autres mesures qui peuvent être prises pour à la fois analyser les contenus, former et encore former les enseignants, former les fonctionnaires. Et en matière de formation, là aussi, il y a des lacunes considérables. Donc je pense qu'il y a plein de sujets sur lesquels l'État républicain peut se douter d'outils nouveaux.
On aurait pu avoir, Jean Glavany, cette conversation, hélas, après l'attentat à Toulouse, après les attentats de 2015. Aujourd'hui, on a toujours envie de dire cela, c'est un électrochoc qui nous engage à agir et à refuser la laïcité de compromission. On a toujours eu deux conceptions de la laïcité qui s'affirmaient, même si l'une est davantage portée aujourd'hui par les partis politiques. C'est une conception d'une laïcité pleine et entière, portée par exemple à gauche par Manuel Valls après les attentats de 2015. Il faut maintenant qu'elle soit unanimement partagée par tous les partis qui se disent républicains.
Oui, mais il faut bien comprendre que la laïcité est une valeur complexe, mais en même temps subtile, mmh. qui est définie par la loi de 1905 même, qui certes dit que c'est une loi de liberté, puisqu'elle protège la liberté de conscience et le libre exercice des cultes, donc c'est une loi de caractère libéral au sens politique du terme, mais en même temps elle dit bien que la laïcité, ses libertés s'exercent dans les limites de l'ordre public. C'est dans les termes ordre public qui signifie en droit l'ensemble des lois et règlements qui définit notre modèle de société. Au fond, ces termes d'ordre public est dans la loi de 1905. C'est-à-dire que, au fond, c'est la laïcité, c'est un subtil équilibre entre deux jambes, une jambe libérale et une jambe d'ordre public. Et quand vous parlez des deux conceptions de la laïcité, bah c'est les conceptions qu'ont ces hémiplégiques, ceux qui retiennent uniquement le volet libéral et les libertés et oublient l'ordre public. Je dirais c'est une grande partie de la gauche et de l'extrême gauche. Et puis ceux qui disent au contraire l'ordre public et oublie le volet liberté, le respect des différences. Voilà, il y en a qui parlent des droits et jamais des devoirs, les autres qui parlent des devoirs et jamais des droits. Et ces deux conceptions sont des conceptions erronées. Ce sont des conceptions erronées. La laïcité, ça fait marcher en même temps les deux jambes. Sinon, on est hémiplégique et on se casse la gueule. Et donc, c'est ça qu'il faut rétablir. Non, il n'y a pas plusieurs conceptions de la laïcité. Non, il n'y a pas deux conceptions de la laïcité. Ces conceptions sont des fausses conceptions, aussi bien celles de Madame Le Pen que celles de gens d'extrême gauche qui parlent d'islamophobie et toutes ces choses-là qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe dans notre pays.
Pour être
concret, rétablir une des conceptions uniques de la laïcité qui est celle de la République.
Très bien. Alors justement, à prendre quelques exemples. Vous qui avez été membre de l'Observatoire de la laïcité, les têtes vont tomber et vous appeliez depuis quelques années au renouvellement, justement. Vous avez critiqué la politique de la présidence pour finalement démissionner. C'est une institution, un organisme public qui accompagne l'État, justement, sur l'interprétation de la laïcité, qui a refusé, par exemple, les arrêtés municipaux anti-burkini, qui a défendu le voile pour les mamans lors des sorties scolaires. Est-ce que tout cela, c'était dans le cadre de l'interprétation de la loi ou est-ce que c'était justement ce qu'on peut appeler aujourd'hui une laïcité de compromission, Jean Glavany ?
Ouais, c'est plus compliqué que ça parce que nous avons quitté avec d'autres l'Observatoire de la laïcité à un moment où son rapporteur général, qui est un fonctionnaire payé par l'État, payé par vous et moi, par l'argent du contribuable, et à ce titre, nous semble-t-il, comme tout fonctionnaire est appelé à un devoir de réserve, avait osé mettre en cause une femme pour laquelle j'ai une très grande estime et une grande admiration pour son courage, qui est Elisabeth Badinter, et ce monsieur s'était permis par un tweet vengeur de dénoncer Elisabeth Badinter, ce qui était totalement inacceptable, et nous avons demandé des excuses. Ça prouve bien que cet observatoire qui était mal né d'ailleurs, parce qu'il est né d'un décret qui avait été signé sous Jacques Chirac, et qui mélange, si j'ose dire, non pas les torchons et les serviettes, parce que ça serait très médisant, mais au moins les carottes et les navets, avec des gens qui sont des représentants du Parlement, ce qui était mon cas, mais avec des gens qui étaient des personnalités qualifiées, mais aussi avec des gens qui représentent les ministères et qui sont donc là pour défendre y compris après arbitrage du Premier ministre, les positions du Premier ministre. C'est un organisme bâtard, il est mal né. Oui. Donc je pense que le moins que l'on puisse faire, c'est pas de se livrer à une chasse aux sorcières, mais de faire en sorte que cet organisme soit parfaitement indépendant, soit devenu une autorité administrative, soit peut-être se scinde en deux, ce qui aurait plus de sens avec une autorité indépendante qui animerait le débat et ferait progresser la pédagogie sur la laïcité, puis une autorité administrative pour faire de l'interministériel et montrer que tous les ministères avancent d'un même pas. Là, on est dans un espèce de mélange des genres qui, franchement, n'a pas fait sa preuve. Et quand on dit, quand je vois des appels de tels ou tels intellectuels en disant que cet observatoire a su se rester au-dessus des querelles partisanes, ben, hélas, ce n'est pas vrai. Hélas, c'est un mensonge. Hélas, le passé a prouvé le contraire. Il est tombé dans des querelles qui étaient tout à fait inacceptables.
Oui, donc signant des manifestes, pas, moi, des pétitions avec des organismes contestables.
Je ne demande la tête de qui que ce soit, parce que je n'ai jamais dans ma vie demandé la démission de qui que ce soit. C'est une affaire, ça vous savez, les démissions des uns et des autres, c'est une affaire entre eux et eux-mêmes, si j'ose dire. Je sais ce que je ferais moi, si j'étais à la place de tel ou tel, mais je ne leur demande rien. Par contre, je demande au pouvoir public d'éclaircir des méthodes et d'en finir avec des statuts qui sont pas du tout adaptés à la guerre qu'on nous mène aujourd'hui et qui ont fait la preuve, à mon sens, de leur inefficacité.
Vous citiez Elisabeth Badinter, Jean Glavany, qui est signataire aussi de cet appel à une laïcité pleine et entière, qui disait il y a quelques années, il faut savoir être prêt à être traité d'islamophobe. Dernière question pour vous, Jean Glavany. Quelles sont les plus grandes faiblesses de la laïcité aujourd'hui? Où sont-elles? À l'école? Dans les services publics?
Je crois qu'il n'y a pas de faiblesse de la laïcité, au sens où la laïcité est une richesse inouïe pour la République française et pour le peuple français. Donc, mais par contre, ce qui est vrai, c'est que c'est tout à fait effrayant de voir que au fond, beaucoup d'écoliers ne savent pas encore ce que c'est. C'est encore effrayant de savoir qu'il y a quelques années encore, des enseignants commençaient à enseigner sans savoir du tout ce que c'était, sans avoir eu le moindre module de formation en IUFM sur la laïcité. Donc, il y a encore énormément de progrès. On a laissé partir les choses à volo depuis des années. Il est temps, mais il est grand temps de se remettre dans le bon sens, et donc en commençant par l'école, parce que tout commence à l'école, bien entendu.
Avec une nouvelle dynamique, de nouveaux outils, de nouvelles instances que vous appelez de vos voeux. Jean Glavany, ancien ministre, maître de conférence à Sciences Po, je rappelle votre ouvrage aux éditions Héloïse d'Ormesson, La laïcité, un combat pour la paix. Merci de vous être exprimé.
Merci.